Everything changed. It had to. Gone were their heroes, their stars, all the records they'd made. Yet among the ashes, an ember still burns.
Liverpool, quart de finale aller de la Ligue des Champions, c'est à vivre ce mercredi en direct et en intégralité sur RFI. Coup d'envoi à 19h, temps universel.
Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi vous est présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. 2h30 ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux partout dans le monde. À la une ce mercredi 8 avril, un cessez-le-feu dans lequel tout le monde gagne et une guerre qui se poursuit malgré tout, pas partout. Les États-Unis et l'Iran se donnent 2 semaines pour négocier et pendant ce temps, les bombardements sont suspendus. Premier symbole, 2 bateaux ont passé le détroit d'Ormuz ces dernières heures. En revanche, l'Iran continue de viser des cibles au Koweït et aux Émirats Arabes Unis. Et puis, une autre guerre se poursuit au Liban. Une 10aine de personnes ont encore été tuées ce matin dans une frappe israélienne. Pas de commentaire du Hezbollah sur le cessez-le-feu lui-même, mais le groupe pro-iranien n'a pas revendiqué d'attaque depuis hier soir et se dit proche d'une victoire historique. On essaiera de comprendre ce qui se passe et les objectifs de guerre d'Israël au Liban dans un peu plus d'1 heure avec notre invité.
RFI Midi.
Dans ce contexte, les deux Français, Cécile Kohler et Jacques Paris, ont pu rentrer dans leur pays après avoir passé quasiment 4 ans détenus en Iran, d'abord dans la prison d'Evin, puis coincés à l'ambassade de France à Téhéran pendant plusieurs mois. Ils sont actuellement reçus par Emmanuel Macron. On appellera notre reporter à l'Élysée dans un instant. On se penchera sur les coulisses de cette libération dans la Fabrique du Monde dans un quart d'heure. Et juste après, nous serons en ligne avec l'un des avocats de Cécile Kohler et Jacques Paris. Et puis il y a du foot à suivre aujourd'hui, suite des quarts de finale de la Ligue des Champions en Europe. Le PSG reçoit Liverpool et l'entraîneur du club parisien, tenant du titre, ne veut pas trop insister sur son statut de favori.
Ce n'est pas important qui est le favori. Contre ce type de niveau, c'est impossible d'avoir un favori. Si vous vous rappelez l'année dernière, tout le monde dit que les favoris c'était le Liverpool et l'équipe qui a qualifié, c'est le Paris Saint-Germain.
PSG, Liverpool, le match commence à 19h, temps universel, et vous pourrez le suivre en direct sur RFI. On en reparle aussi dans 20 minutes et dans le journal des sports dans 3 quarts d'heure. Vous avez le programme, bienvenue. Et tout de suite, le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous.
Les États-Unis et l'Iran sont donc tombés d'accord sur un cessez-le-feu. Il va durer 2 semaines.
Oui, vous l'avez dit, c'est une trêve fragile qui vient d'entrer en vigueur entre les deux pays, l'Iran et les États-Unis, qui devraient entamer vendredi des pourparlers au Pakistan, pays médiateur dans cette guerre au Moyen-Orient. Les États-Unis vont interrompre les attaques sur l'Iran durant 2 semaines et Téhéran va en retour ouvrir temporairement le détroit d'Hormuz. Donald Trump a donc finalement annoncé un cessez-le-feu moins de 2 heures avant la fin de l'ultimatum qu'il avait lui-même fixé et alors qu'il avait menacé le matin même d'anéantir la civilisation iranienne. François Damien Bourgerie, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Vous avez parcouru, François Damien, la presse américaine qui bien sûr revient largement sur ce revirement.
Oui, et notamment le New York Times, pour qui Trump a trouvé une issue au conflit sans pour autant en résoudre les causes. Pour le journal, si la stratégie du président états-unien formulée des exigences maximalistes pour trouver un compromis devrait permettre au pétrole et aux engrais de circuler à nouveau dans le détroit d'Hormuz et de calmer les marchés, au moins temporairement, cette stratégie donc ne résout en aucun cas les problèmes fondamentaux qui ont conduit au conflit. Le régime iranien est toujours en place, même si ses têtes ont changé. CNN, de son côté, pointe les graves questions constitutionnelles qui se posent après la menace présidentielle d'anéantir la civilisation iranienne, une ligne qu'aucun autre locataire de la Maison-Blanche n'avait franchie jusqu'à présent et qui, estime CNN, interroge sur les capacités de discernement de ce président âgé de 79 ans.
Des doutes qui conduisent d'ailleurs plusieurs voix à appeler à la destitution de Donald Trump en invoquant le 25e amendement de la Constitution.
Oui, un amendement qui permet de déposer de force un président jugé inapte. Alors parmi ceux qui l'invoquent, on trouve des dizaines d'élus démocrates, dont le gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker, et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, pour qui les facultés mentales du président sont en train de s'effondrer. Mais on trouve aussi plusieurs figures du camp conservateur. On peut notamment citer l'ancienne représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, l'ancien directeur de la communication de Donald Trump, Anthony Scaramucci, ou encore le conspirationniste Alex Jones. Mais pour que la procédure aboutisse, il faut l'approbation d'une majorité du gouvernement et l'accord du vice-président avant un vote du Congrès.
François Damien Bourgerie, merci. En France maintenant, le président Macron s'est exprimé sur la trêve qui vient d'intervenir, se réaffirmant la position de Paris et se félicitant de cet arrêt des combats. Victorien Villaume, vous êtes sur place. Avant de présider le Conseil des ministres, le président Macron a reçu Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris de retour en France après plusieurs années de captivité en Iran.
Oui, absolument, Gilles. Les deux ex-otages qui viennent de se présenter devant les journalistes pour un échange de quelques minutes, une courte prise de parole avec des mots importants. Nous voulions être là pour vous dire que nous sommes soulagés de pouvoir enfin prendre dans nos bras nos familles. Cécile Kohler qui expliquait qu'évidemment le FaceTime auquel elle avait le droit jusqu'à maintenant, les contacts à distance n'avaient rien à voir. Elle exprime sa reconnaissance pour sa famille, pour tous ceux qui se sont battus pour son retour en France, pour leur retour en France, remerciement notamment aux services de l'État, président public, ministère des Affaires étrangères. Nous avons vécu le quotidien et l'arbitraire permanent, affirme Cécile Kohler. Des mots aussi du côté de Jacques Paris. Nous étions des otages d'État traités dans des conditions extrêmement difficiles, des conditions étant inhumaine. L'objectif, dit Jacques Paris, c'est de nous briser. Cet échange, en tout cas, avec le président de la République aura duré une heure environ. Nous allons témoigner et expliquer vive la vie, a enfin conclu Jacques Paris, après donc cet échange avec les journalistes dans le jardin de l'Élysée.
Merci Victorien Vuillaume en direct de l'Élysée. Vous l'avez donc constaté dans des conditions d'écoute un peu difficiles. Israël approuve la trêve intervenue avec l'Iran, mais poursuit ses frappes au Liban. Son armée a lancé ce matin des frappes et renouvelé ses ordres d'évacuation. Une frappe a notamment visé un immeuble de la région de Tyr. L'armée a aussi appelé à évacuer la population de plusieurs quartiers de la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Le Hezbollah pro-iranien, lui, qui n'a plus revendiqué d'attaque contre Israël depuis la nuit dernière. Le Premier ministre pakistanais assure que les États-Unis, l'Iran et leurs alliés ont accepté le cessez-le-feu partout, y compris au Liban. Emmanuel Macron, lui, réaffirme que le cessez-le-feu doit inclure pleinement le Liban. À l'unisson des marchés mondiaux, la bourse de Paris est repartie à la hausse à l'annonce d'une trêve de 2 semaines au Moyen-Orient. L'action Total Énergie, elle, chute de 6,5%, plombée par la baisse des cours du pétrole. Clotilde Hasard.
Les prix du pétrole s'effondrent. Le pétrole américain chute d'environ 15%. La référence mondiale, le baril de Brent, lui chute de 13%. Et le gaz européen perd 20%. Cette baisse devrait se répercuter sur les prix à la pompe. En France, les prix devraient baisser de 5 à 10 centimes très rapidement. À noter que le prix du pétrole reste élevé de manière générale, au-dessus de 90 dollars le baril contre 81 en moyenne sur les 12 derniers mois. Le marché des actions est, lui, en forte augmentation. Les bourses asiatiques ont ouvert avec une hausse de 5% en moyenne, 4 pour l'indice du CAC 40 à la Bourse de Paris ce matin. Attention pour les voyageurs, même si les compagnies aériennes s'envolent aussi en bourse. L'approvisionnement en kérosène et le prix de l'hydrocarbure ne reviendront pas à la normale avant plusieurs mois pour le secteur. Et ce, même si le détroit d'Ormuz rouvre complètement. Ce qui reste une hypothèse, car malgré ce début d'euphorie des marchés, plusieurs experts préviennent auprès de l'AFP qu'il ne s'agit que d'une pause et que les risques structurels n'ont pas disparu.
Clotilde Hasard du service économie, merci à vous. J'ajoute cette déclaration du Premier ministre français Sébastien Lecornu. Le gouvernement veillera à ce que les prix des carburants baissent aussi vite qu'ils sont montés. Et puis l'Ukraine appelle Washington à faire pression sur Moscou afin d'obtenir un cessez-le-feu et mettre fin à plus de 4 ans de guerre. Kiev estime que la trêve entre les États-Unis et l'Iran a montré le succès de la fermeté américaine. Le vice-président J.D. Vance a répondu : le conflit en Ukraine est, je cite, la guerre la plus difficile à résoudre.
J.D. Vance qui s'exprime de Hongrie. Il est venu apporter son soutien au Premier ministre avant des élections législatives à l'issue incertaine qui sont prévues dimanche.
Oui, dans les sondages, le parti au pouvoir est au coude à coude avec l'opposition. Le parti du Premier ministre, Viktor Orban, jouit d'une confortable assise électorale en Roumanie. La Roumanie où se trouve la plus importante communauté hongroise à l'étranger. Un bassin électoral particulièrement choyé par le dirigeant conservateur. Reportage de notre correspondant à Bucarest, Guilhem Bernes.
Construction d'écoles, de logements, de centres culturels et sportifs. Ces dernières années, le gouvernement hongrois de Viktor Orban a multiplié le financement de projets chez son voisin roumain. Une stratégie payante, selon le politologue Sergiu Mișcoiu.
L'aide aux Magyars de l'étranger a permis à Viktor Orban de se targuer d'être le grand rassembleur des communautés hongroises au-delà des frontières. Il réussit de cette manière à mobiliser les voix des nationalistes hongrois de Hongrie.
En Roumanie, le jeune parti d'opposition hongrois Tisza est encore peu connu. Son réseau local se concentre dans une poignée de villes et la dernière visite dans le pays de Péter Maghiar, son chef de file, remonte à plus d'un an.
Fidesz a investi énormément dans l'électorat hongrois de Transylvanie et il est fort probable que la majorité vote avec le Fidesz. Ceci dit, il y a une progression de l'opposition qui n'est pas à la hauteur de la progression en Hongrie, mais qui existe aussi parmi les citoyens hongrois de Roumanie.
Un peu plus de 310 000 Hongrois sont inscrits en Roumanie pour voter ce dimanche. Guilhem Bernes, Bucarest, RFI.
Il s'appelle Ben Robert Smith et c'est le soldat le plus décoré de l'histoire en Australie. Ce qui n'empêche pas qu'il a été arrêté hier à Sydney et inculpé de crimes de guerre. En l'occurrence, 5 meurtres de civils. Des meurtres qu'il aurait perpétrés ou ordonnés alors qu'il servait en Afghanistan avec les forces spéciales australiennes. À Sydney, pour RFI, Grégory Pless.
Déjà reconnu coupable de crimes de guerre par la justice civile en 2023, Ben Robert Smith, après avoir échoué à faire condamner pour diffamation les médias australiens qui avaient les premiers révélé ses agissements en Afghanistan, est désormais poursuivi au pénal. 5 meurtres de civils et de prisonniers afghans, exécutés entre 2006 et 2012, soit par lui-même, soit par des subalternes à qui il en a donné l'ordre, lui sont reprochés. Le résultat d'une investigation longue, 5 ans, s'expliquant par la difficulté à recueillir des preuves en Afghanistan, selon Ross Barnett, le directeur du bureau spécial chargé de l'enquête.
Contrairement à une enquête classique menée en Australie, le défi pour nos enquêteurs est que nous n'avons pas accès à la scène de crime. Donc, pas de photos, pas de plan des lieux, de prise de mesures, pas de récupération des munitions ou d'analyse des traces de sang. Tous ces éléments matériels qu'on recueillerait normalement sur une scène de crime.
Au-delà du cas de Ben Robert Smith, d'autres membres des forces spéciales australiennes pourraient être engagés puisqu'en 2020, l'armée elle-même avait reconnu qu'au moins 39 meurtres de civils avaient été commis en Afghanistan par cette section d'élite. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Football avant de conclure. Paris Saint-Germain, Liverpool ce soir au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un match à suivre en direct et en intégralité sur RFI. De son côté, Barcelone sera opposé à l'Atlético Madrid. Hier soir, le Bayern Munich a signé un succès de prestige de 2-1 au stade de Bernabéu face au Real Madrid. Bonne journée sur RFI. Je vous laisse en compagnie d'Anne Kantner.
C'était Gilles Moreau pour le journal. À tout à l'heure, Gilles. Dans la fabrique du monde, vous revenez, Guillaume Nodin, sur le retour en France, enfin, de Cécile Kolar et de Jacques Paris, ces enseignants français détenus plus de 3 ans en Iran, plus 5 mois à l'ambassade de France à Téhéran. Ils sont donc arrivés ce matin sur le sol français, à l'issue, Guillaume, d'un intense travail diplomatique.
Oui, un travail qui durait depuis des années maintenant et qui s'est intensifié depuis le début de la guerre en Iran le 27 février par deux canaux, le Sultanat d'Oman pour ce qui est des communications indirectes. Le président Emmanuel Macron a parlé 2 fois avec le Sultan d'Oman depuis le début de la guerre, indique l'Élysée. Il y a eu aussi des communications directes. Elles se sont faites entre ministres des Affaires étrangères. Une source proche du ministre français indique que depuis le début de la guerre, Jean-Noël Barrot s'est entretenu pas moins de 6 fois avec son homologue iranien Abbas Araghchi, avec à chaque fois en tête la situation du conflit, mais aussi, et sans lien entre les deux, insistent les autorités françaises, le sort de Cécile Kolar et Jacques Paris, priorité absolue de la France, indique l'Élysée. C'est dimanche, lors de son tout dernier contact avec son homologue iranien, que le ministre français a eu la confirmation de l'accord des autorités iraniennes pour la libération des désormais anciens otages.
Alors donc, il y a eu des discussions, des négociations, qu'est-ce qu'on en sait ?
Eh bien, pas grand-chose, et c'est assez normal, Anne, le secret étant nécessaire à la réussite et à la crédibilité de ce genre de discussions. Tout juste le Quai d'Orsay accepte-t-il de préciser que les discussions ont porté sur différentes mesures de confiance. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais on a appris hier soir par son avocat que l'assignation à résidence de Madieh Esfandiari, une Iranienne condamnée en France pour apologie du terrorisme, avait été levée quelques heures seulement après la libération des deux Français. Depuis plusieurs mois, la République islamique liait les deux affaires. L'Élysée refuse d'infirmer ou de confirmer un lien en rappelant que la justice française est indépendante et que Madieh Esfandiari était encore en France hier soir. Au contraire, aussi bien la présidence que le Quai d'Orsay affirment que ces négociations n'ont pas infléchi la politique étrangère de la France et que la fermeté avec les autorités iraniennes a toujours été de mise pour les sujets de politique tout au long de ces dernières semaines. De la même manière, l'Élysée indique aussi que le refus français de participer à l'opération israélo-américaine n'a pas été un élément de l'équation.
Guillaume Nodin pour La Fabrique du Monde. Et nous sommes en ligne maintenant avec l'un des avocats de Cécile Kolar et de Jacques Paris. Bonjour Martin Pradel.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Ça y est, on le disait, c'est l'aboutissement d'une longue période d'incertitude. Après leur entretien avec Emmanuel Macron tout à l'heure, tous les deux ont pris la parole quelques instants à l'Élysée. Jacques Paris a précisé qu'ils n'étaient pas brisés, qu'ils allaient témoigner. Et elle, Cécile Kolar, a dit son bonheur immense de retrouver ses proches. Et vous, leur avocat, comment est-ce que vous vous sentez là ce midi ?
Bah, extrêmement soulagé de les voir souriants, de les voir avec la tête haute et le regard franc pour dire qu'ils n'ont pas été brisés. Nous les savions forts parce que c'est quelque chose qui a transparu dans les échanges qui ont eu lieu alors qu'ils étaient détenus et qu'ils pouvaient très fugacement parler avec leur famille. Mais on savait aussi comme c'était dur. Vous savez, celui qui dit parfois « vous ne m'avez pas brisé », c'est aussi une façon de dire la souffrance. Le simple fait de parler d'une brisure est quand même quelque chose qui interpelle. Ils sont passés par l'enfer et ils en sont revenus maintenant. Je pense qu'effectivement, ils vont avoir leur parole et ce sera essentiel pour eux, je devine, de pouvoir dire et de pouvoir raconter par quoi ils sont passés, pour aussi dénoncer cet arbitraire qui les a si durement frappés ces derniers mois, ces dernières années.
L'arbitraire, c'est justement un mot qu'ils ont utilisé tous les deux tout à l'heure, l'arbitraire permanent. Ils ont aussi parlé d'horreur. C'est vrai que pendant 3 ans, ils ont été détenus dans des conditions très dures, dont ils étaient sortis très marqués.
Mais privés de sommeil parce qu'on mettait la lumière en permanence dans leur cellule, qui était une cellule exiguë, sans qu'on puisse sans qu'ils ne puissent jamais créer de lien avec leur environnement, donc une forte solitude. Un véritable isolement accompagné de manœuvres d'intimidation, le rappel permanent qu'ils vont être condamnés à mort et que ça peut tomber d'une minute à l'autre, l'impossibilité pour eux de même comprendre ce qu'on leur reproche parce qu'ils n'ont jamais eu d'avocat, ils ont été jugés d'une manière parfaitement expéditive, en dépit des efforts de la diplomatie française qui a voulu que leurs droits soient respectés. Leurs droits ont été littéralement nié. Et donc tout cela a contribué à ce que le traitement qui leur a été réservé puisse être qualifié sans aucune difficulté de traitement inhumain et dégradant, qui confine à la torture. Donc ce sont des gens qui ont vécu une torture pendant 3 ans et demi et qui en sortent après 6 mois de sas à l'ambassade de France à Téhéran, où ils ont été pris en charge et par des personnes qui étaient bienveillantes à leur égard, et là je pense aux fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, des personnes qui les ont pris en charge et qui leur permettent aujourd'hui de tenir ce discours si clair et leur détermination à dénoncer les injustices qu'ils ont vécues. C'est absolument essentiel et ça dit quand même la dureté du traitement qui leur a été réservé.
Après ces années de détention en prison, vous l'avez mentionné, il y a eu plusieurs mois à l'ambassade de France à Téhéran, ça leur avait permis de se remettre un peu quand même ?
Je pense que ça leur a... D'abord, c'était toujours une privation de liberté, hein, même s'ils étaient dans un environnement qui n'était plus celui de cette prison affreuse, qui était la section 209 de la prison d'Evines, vraiment un endroit réservé aux détenus politiques qu'on veut faire souffrir. Soudain, d'arriver à l'ambassade de France, d'une certaine façon, à la Maison France, quelque part où ils étaient pas chez eux, mais un peu quand même, entourés de personnel qui était extraordinairement attentionné à leur égard. Donc ça a changé évidemment les choses, mais ils n'en étaient pas au point de pouvoir revenir dans leur pays, retrouver leur famille, retrouver leurs amis, finalement retrouver leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui va maintenant pouvoir se mettre en place. On souhaite évidemment que ça ait lieu le plus vite possible. Il va y avoir une impression d'avoir à récupérer le temps perdu. Mais c'est vrai que pour répondre à votre question, dans cette période de 6 mois qui vient de se passer, peut-être que ça contribue à ce que l'atterrissage soit un peu moins brutal que s'ils avaient été libérés hier de la prison d'Evin et qu'ils arrivaient aujourd'hui sidérés à l'ambassade en France. C'est ce passage dans les locaux de l'ambassade de France ont sans doute contribué à ce qu'ils puissent dès aujourd'hui tenir un discours aussi clair.
Et puis il y a eu un autre temps intermédiaire, c'est le retour, le trajet. Vous nous l'avez dit, vous n'avez pas encore pu leur parler. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé ?
Non, je ne sais pas, parce que les familles ont été ce matin, c'est normal, avec eux et avec le chef de l'État, et c'était un moment important. Là, ils viennent de s'exprimer. Je ne sais pas comment s'est passée cette attente. On imagine qu'ils ont été certainement très impatients que ce vol de 4 heures se termine, ces 4 heures qui ont passé, qui ont fini par passer, et maintenant ils sont là. Un jour, peut-être, tout ça appartiendra vraiment au passé. Merci. Pour le moment, on est dans un moment de gratitude. Voilà.
Je vous remercie beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Martin Pradel. Vous êtes Merci donc vous. L'un des avocats de Cécile Kohler et de Jacques Paris.
RFI Midi, Anne Contenaire.
Comme chaque jour, on jette un mot.
Okay. I like to do a song. Going for it. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.